Bonjour à tous. Alors, voyons ensemble la parole dans 2 Jean ce matin, qui nous servira comme texte de base pour le message, qui se trouve tout à la fin de la Bible. Donc, si vous voulez, ça se termine en Apocalypse. Vous prenez quelques pages en avant et vous vous trouverez en 2 Jean. Nous lisons les premiers 6 versets dans 2 Jean, qui disent de suite. L'ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dont la vérité est l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon un commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon les commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. On s'arrêtera là. Donc par la suite, Jean il va parler des faux docteurs. Et nous, nous allons poser le regard sur ces thèmes qu'il introduit ici, qui sont la vérité et l'amour. Et ça sera aussi le message pour ce matin, qui est aimons-nous les uns les autres. Donc d'abord, nous notons que c'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose de nouveau que Jean ici introduit. C'est un commandement que le Seigneur Jésus lui-même nous a déjà donné dans l'évangile de Jean 13. Donc c'est lors de la... Dans Jean 13, c'est avant que Jésus soit trahi par Judas, avant qu'ils soient crucifiés. Et c'est juste après qu'ils ont le repas de la Pâque ensemble et qu'ils lavent les pieds des disciples. Ils leur laissent avec ce commandement dans les versets 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc là, c'est déjà une des dernières choses que Jésus va nous laisser avant de partir pour la croix, avant sa plus grande œuvre. Et c'est non seulement un commandement comme les autres, mais c'est aussi, on peut reconnaître dans ce commandement-là, le plus grand commandement, comme il est nommé dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 12. Là, nous lisons dans les versets 29, à partir du verset 29, où il est approché et un scribe lui demande « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Donc ici, Jésus résume la totalité de l'Ancien Testament, des anciennes écritures, de la loi, en aimant Dieu d'abord et aimant l'autre, ce qui est l'image donc d'aimer Dieu. Bon. Mais qu'est-ce que cela veut dire maintenant pratiquement? Parce qu'aimer, ça peut être quelque chose d'assez... des sentiments et qu'on a difficulté à voir physiquement ou à comprendre, à le faire. Pour cela, on va lire la parabole du bon samaritain dans Luc 10. Luc 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Donc ici, on peut aussi mettre la question, comment vraiment aimer? Qui est mon prochain? Comment j'aime mon prochain? À quoi cela ressemble-t-il? Que dois-je faire? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi fais de même. » Donc Jésus termine par lui dire « Va et fais de même. » Aimer, ce n'est pas simplement une pensée ou être d'accord avec ce propos d'aimer les gens et d'avoir des sentiments, mais c'est une émotion qui est couplée avec la décision d'agir, d'aller à l'encontre du besoin de l'autre. Ici, ça coûtait au Samaritain d'aimer son prochain. C'était facile de le laisser au bord du chemin, de l'ignorer simplement. Comment l'ont fait le sacrificateur et le lévite, qui avaient une grande estime dans la culture juive, dans leur histoire. Mais c'est lui qui va prendre soin de lui, qui le met sur sa monture, il le soigne soi-même avec l'huile, le vin, et il le laisse simplement, pas simplement au bord du chemin, mais il l'amène à l'autel, et il fait en sorte qu'on prenne bien soin de lui. Donc prenons aussi l'exemple de la première église, l'église primitive. Ça, nous pouvons lire dans le deuxième chapitre des Actes, donc vers la fin du deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre des Actes, nous avons l'Esprit qui est répandu sur l'église. Donc nous avons l'église qui naît en soi, comme corps de Christ, qui reçoit son Saint-Esprit. Et nous voyons l'effet immédiat, comment les premiers chrétiens, les premiers croyants étaient, à partir du verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc là, nous voyons une Église qui exerce cet amour, qui est proche, qui prie ensemble, qui loue le Seigneur ensemble, qui partage ses biens selon chacun a besoin, qui passait du temps ensemble, qui était là. Et nous voyons que c'est là que l'Église est plus efficace. Nous lisons dans les derniers versets que le Seigneur ajoutait tous les jours à ceux qui croyaient. Et beaucoup de prodiges se faisaient. Si nous parlons d'amour, nous sommes obligés aussi de lire, bien sûr, 1 Corinthiens 13, où Paul, l'apôtre Paul, nous donne un peu plus de détails, une petite définition. Donc dans 1 Corinthiens 13, il commence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Posons là pour quelques réflexions. Donc là, Paul est très clair. Si nous n'avons pas l'amour comme première motivation, si ce n'est pas cela qui motive même les dons de l'esprit, ça ne nous sert à rien. Ce n'est pas seulement un bon enseignement, la parole, des programmes qu'on puisse avoir, des campagnes évangéliques, des cours à l'église, ou notre propre effort. Si ce n'est pas motivé par l'amour, d'abord les uns pour les autres, cela est nul, et nous ne sommes rien. Donc continuons à lire dans le verset 4, un peu plus précisément comment cet amour il se manifeste. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Donc ici, on voit de plus près comment aimer quelqu'un, comment vouloir le bien, comment chercher l'intérêt de l'autre. Ce qui était vraiment le commandement premier du Seigneur Jésus. Donc c'est à ces choses-là, cette petite liste qu'on vient de lire, qu'on va voir l'obéissance qu'une église, qu'une personne a envers Dieu. C'est en manifestant cet amour-là. C'est le moyen par lequel elle est reconnue, par lequel elle grandit, en profondeur et en largeur, parce que c'est comme ça que le Seigneur il va aussi nous multiplier. Et un aspect sur lequel j'aimerais toucher ce matin et mettre attention, c'est que cet amour, il est toujours accompagné d'une proximité. Donc il n'existe pas, c'est non seulement un amour général qu'on a pour son prochain et qu'on professe comme ça, On a pu le voir que c'est un amour qui est né d'une proximité des uns des autres, d'une relation, d'être prêt, d'être là, physiquement présent. Comme on a lu dans le deuxième chapitre des Actes, cette église qui se rassemblait, qui était ensemble, tous les jours même. Forcément, ils se connaissaient bien, leurs points forts, leurs points faibles. Ils s'aidaient mutuellement. Ils vivaient ensemble. Et ils étaient plus que de bons amis, mais vraiment une famille, soudée ensemble. Ça, c'est pas seulement important, je dirais, pour aujourd'hui ou en général. Mais si nous gardons l'œil sur les derniers jours et sur la venue du Christ, je crois qu'il est important que nous soyons prêts à cet égard-là, qu'il trouve chez nous de la foi et de l'amour, comme il nous l'a commandé. Donc rappelons-nous de la parabole des 10 vierges, que quand l'époux y vient, que nous soyons comme les sages, qui remplissent les lampes avec l'huile, avec l'esprit et avec l'amour. Parce que c'est à la fin du jour cet amour qui nous donne notre force, notre identité. Dans ce monde qui est de plus en plus dépourvu d'amour, et qui le cherche à travers plusieurs chemins détournés, les gens ont une vraie soif et faim de cet amour, qui se trouve seulement ici. C'est nous ici qui avons l'Esprit de Dieu. Et qui en manifestant cet esprit, cet amour, eux ils peuvent voir cet amour de Dieu. Et le ressentir. Et c'est cela qui touchera les gens. Non seulement nos efforts, comme on vient de le lire, ou nos capacités ou quoi que ce soit. C'est cet amour que Dieu nous a donné, que Jésus nous a donné. Et que nous pratiquons les uns envers les autres. Donc retournons vers les épîtres de Jean à la fin de la Bible. Jean, comme les autres apôtres, ils peuvent nous écrire ces choses précisément parce qu'ils étaient près de Dieu, parce qu'ils étaient près de Jésus. C'est de là que vient cet amour, c'est là leur source. C'est pas d'eux-mêmes, c'est pas quelque chose qu'ils puissent générer de leur propre force, mais c'est l'amour qui est donné de Jésus directement. Dans la première épître de Jean, les premiers versets du premier chapitre. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Donc, on voit comment Jean, ici, il veut être en communion avec ses frères. Et cette envie, elle vient du Seigneur lui-même, parce qu'il est en communion avec lui, avec le Père, et aussi les uns avec les autres. C'est aussi le but de Jésus lui-même, parce que Dieu nous a aimés dès le début, dès la création du monde, mais il a choisi de venir ici comme homme, pour être près de nous, spirituellement et physiquement, littéralement. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jean, il traduit cet amour pour ses frères tout le temps dans ses lettres, dans ses épîtres. Il le montre, il le démontre, comme tous les autres apôtres. Paul, qui souffrait tout le temps, qui écrivait tout le temps, et qui cherchait à être prêt de ses frères. C'était pas simplement quelque chose qu'il devait faire, un commandement quelconque comme « va et fais cela » et qu'il le faisait pour avoir une récompense. C'était plutôt quelque chose qui venait du cœur, qu'il faisait parce qu'il l'aimait, parce que ça leur apportait de la joie, du bonheur. Si nous retournons vers la deuxième épître de Jean, où nous avons commencé ce matin, nous voyons très bien comme il s'adresse ici à nous et à qui il écrit ici la lettre, que ce soit une femme ou une église. L'élu des enfants, à Kyria, que j'aime dans la vérité. Dans la troisième épître de Jean aussi, la lettre qu'il adresse à Gaius, l'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc là, il leur dit, moi je vous aime, vous êtes mes bien-aimés. Il espère le mieux, le bien pour eux. Ensuite, il continue ici dans la troisième épître en louant Gaius pour son hospitalité, qui est aussi une forme d'amour, de recevoir les étrangers, de recevoir l'un l'autre chez soi. Parce qu'à la fin du jour, c'est ça, passer du temps ensemble. Ce n'est pas forcément lié au culte le dimanche matin ou à quelques rencontres organisées, mais d'être soi-même, de se rencontrer entre soi, que ce soit pour boire un café ensemble, prendre des nouvelles, prier ensemble aussi, louer, discuter des trucs et être là où on a besoin, si on est malade ou si on est simplement joyeux, pour se réjouir ensemble, pour se soulever les uns les autres. Et ça aussi, on voit non seulement comment Jean il commence ses épîtres à chaque fois, mais comme il les termine surtout. Donc la fin de la deuxième lettre. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Et la même chose, il répète dans la troisième épître, à celle ici adressée à Gaius. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire, avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Donc si nous voyons eux, comme nous aujourd'hui, nous avons nos moyens de nous communiquer les uns avec les autres sans être là. Nous avons encore plus ici, vous n'avez que les lettres qu'ils devaient physiquement donner à quelqu'un, mais nous avons nos téléphones, les coups de fil, les messages et tout ça. Et ce sont de bons outils. Mais ne laissons pas cela remplacer notre présence et cette proximité que nous devrions avoir les uns avec les autres. C'est là, c'est dans cette proximité-là où l'amour peut grandir. Où après, toutes choses viennent et donnent des fruits, que ce soit les dons, que ce soit des campagnes évangéliques, des enseignements, ce que vous voulez. Donc je vais conclure là, c'est un peu vite, mais je vais conclure avec cela. C'est que comme Jésus nous a aimés, il a été proche de nous, aimons-nous les uns les autres et soyons proches. Et faisons cela non seulement parce que c'est quelque chose qu'on doit faire, ou en théorie, ce qui produit le plus de résultats ou qui est le plus efficace, mais qu'il soit quelque chose qui naît du cœur, d'être proche, de prier les uns pour les autres, de passer du temps ensemble. Et de là, dans l'amour du Seigneur, nous aurons des fruits. Que ce soit entre nous, que ce soit les autres qui entrent et qui voient cet amour, eux, ils pourront le sentir. C'est ça qui va les attraire. Amen. Amen.